ça peut servir. Clic suivant, s'il vous plaît. J'aime beaucoup cette promesse. Mais est-ce une promesse? C'est une affirmation, en fait, toute simple de l'Écriture, et elle est pour nous ce matin. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire, en l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles, amen. Au siècle des siècles, amen. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire, en l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, amen. 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 Si on a vu Dieu faire de belles choses dans nos vies, dans nos villes, dans notre monde, c'est le début du commencement de ce qu'il est capable de faire. Amen. Osons le croire. C'est même pas une promesse. C'est comme ça. C'est une loi. Il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Et on a bien raison de s'attendre à lui et de garder confiance en tout temps. Il est digne de confiance. Et moi, juste avant d'ouvrir enfin la parole, bon, on est presque déjà dans la parole, d'ailleurs on y est tout à fait, partager un autre chant, inspiré d'un texte de quelqu'un que je ne suis pas sûr que vous ayez eu l'occasion de vous rencontrer. Il s'appelait Ambroise de Milan. Et Ambroise de Milan est mort il y a bien plus de 1000 ans, puisqu'il a vécu au 4e siècle. Alors, si vous pensez l'avoir connu, consultez votre médecin, parce que vous avez un problème de mémoire. Excusez-moi, hein, une plaisanterie. Non, ça arrive quelquefois que je dise, est-ce que Ambroise de Milan, vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ah oui, oui, oui. Alors là, j'ose plus dire quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il est mort.
Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière.
J'aime ces mots, je trouve que parle tellement bien de Jésus. C'est l'Épître aux Hébreux, hein, qui dit qu'il est le rayonnement de la gloire du Père.
Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Jésus-Christ, seul Seigneur, règne au fond de nos cœurs. Splendeur de la gloire du Père. Splendeur de la gloire du Père. Que luise ta clarté sur toutes nos pensées, pour le bien, fortifie nos mains. Terrasse l'ennemi qui si souvent rugit. brille sur nous de tes rayons divins. Brille sur nous de tes rayons divins. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Jésus-Christ, seul Seigneur, règne au fond de nos cœurs. Splendeur de la gloire du Père, splendeur de la gloire du Père. Que Christ soit à jamais notre pain quotidien, ton esprit nous abreuvant sans fin, jusqu'au jour où enfin nous te verrons en face, seul Seigneur, source de toute grâce. Seul Seigneur, source de toute grâce. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière. Splendeur de la gloire du Père, source vive de toute lumière.
Merci notre Père de ne pas vous avoir laissé dans l'obscurité, dans nos ténèbres profondes et désespérantes. Merci d'avoir envoyé ta splendeur, ton Fils, ce que tu avais de meilleur, ce que tu es de meilleur, de l'avoir donné pour notre salut et pour notre espérance, pour transformer et combler nos vies. Merci de nous guider aussi à travers ta parole pour mieux te connaître, mieux t'aimer et mieux te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Ambroise de Milan qui a écrit ça. Son texte est plus beau que ça, mais c'est un petit peu un abrégé pour essayer d'en partager l'essentiel. Je vous invite à ouvrir votre Bible sans plus tarder dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er. Il fait chaud en Angers finalement quand même. Hein? Ah ouais. Tout compte fait, je retire ce que j'ai dit, la douceur angevine. Ça... En tout cas, sous les spots, c'est sûr que... Romains, chapitre 1er. Si Dieu ne nous avait pas donné sa parole, on serait mal barré, on serait mal pris, on serait très mal, pas vrai? Ceux qui essaient d'apprendre le français là, avec des expressions comme ça, d'ici à ce que j'y mêle un petit peu des québéquismes au milieu, alors ça va être compliqué. C'est le grand désespoir des étudiants ou des... C'est pas le désespoir, c'est le mien. Des étudiants ou des étrangers qui viennent au Québec et qui se disent, on va apprendre le français, puis ils apprennent le français, mais quel français, mes amis? Le français du Québec. Aïe, aïe, aïe. Mais ils sont adorables, on les aime beaucoup, les Québécois, ils nous le rendent bien. Oui, merci. Ah, quand je vous dis que ma femme, c'est 80%, on a même pitié de moi. Romains, chapitre 1er, j'aime beaucoup l'épître aux Romains. J'aime beaucoup toute la parole. Je ne la connais pas encore très bien, ça fait que 40 et quelques années que je la lis, mais je commence à me faire une petite idée. Mais je suis sérieux quand je dis ça. Je veux dire, plus on la lit, c'est comme la France. Plus on la visite, plus on se rend compte qu'on la connaît mal, qu'il y a tellement de choses à découvrir. Votre région est d'une richesse incroyable. Vous êtes forcément tous des gens riches qui avaient une demeure ou un château quelque part. Vous avez tous les châteaux qu'il y a, ça peut être le vôtre. Ouais. Non ? Remarquez, moi, j'aurais pas envie de vivre dans un château. Il fait froid. Mais la parole de Dieu, quelle richesse. Vous pouvez, si on est un tant soit peu attentif, parce que tout le problème, est, le plus gros du problème est là, hein, c'est de se poser et de se mettre vraiment à l'écoute de Dieu par sa parole. Ça, c'est un défi. Mais dès qu'on le fait, quand on le fait, quand on prend le temps de le faire un petit peu, alors là, les choses se mettent en place, puis on découvre plein de choses cachées. C'est comme le château de Brézé. Château de Brézé, quel... Tout le monde a visité le château de Brézé. Pas sûr. Quels sont ceux qui l'ont visité? Ah, oula, Daniel, il faut organiser un voyage. Levez la main à ceux qui ont visité Brézé. Levez la main. Hein? Tous. Ouais. Mais ça ne m'étonne pas, c'est pareil au Québec, on leur parle de quelque chose d'à côté. C'est normal, nous c'est pareil, on connaît moins bien. Alors, je vous explique en 20 minutes. Deux mots. Il y a 3000 à peu près, nous dit-on, mètres carrés de surface dans le château, ce qui est pour un château, somme toute, raisonnable. 3000 mètres carrés. Ça, c'est le château de Brézé. Et puis, il y a les sous-sols du château de Brézé, qui sont des galeries troglodytiques, qui sont bien plus étendues que le château, et on les a visitées, on a failli s'y perdre. Et il y a 28 000 mètres carrés de galeries et de souterrains qui ont été creusés à travers les siècles. 28 000, ça veut dire 3 fois 7, beaucoup plus que le château lui-même, qui est en surface. Et j'aimerais vous dire, c'est un peu comme notre vie. Hein. Notre vie, c'est il y a la pointe de l'iceberg, il y a ce qu'on voit, il y a ce que vous voyez, vous entendez du bonhomme ce matin. Et puis, il y a ce que je suis vraiment. Alors, ma femme en connaît un peu plus, mais même elle ne connaît pas tout. Et même moi, il y a des choses qui m'échappent de moi-même. Et vous aussi, sans doute. Et la vie, c'est un peu la même chose, le mystère de la vie. Embrasser le mystère. On avait parlé de ça au mois d'octobre ensemble. Et la parole de Dieu, ce sera toujours comme ça. Donc, si quelqu'un vient vous voir et vous dit, moi, je vais t'expliquer la Bible parce que je la maîtrise, je la comprends, je la connais, méfiez-vous. Méfiez-vous. S'il la comprend et qu'il la connaît, c'est une chose, mais prétendre la maîtriser dans sa totalité, dans toute sa diversité, un peu d'humilité, s'il vous plaît. Et si quelqu'un vous dit « je la connais par cœur », c'est merveilleux, demandez-lui de vous la réciter. Ce sera sûrement très édifiant. Romains chapitre 1, verset 7. « À tous ceux qui sont à Rome et à Angers », ce n'est pas dans le texte, mais on peut le mettre. Sinon, Dieu n'aurait pas veillé à ce que ce texte franchisse 2000 ans d'histoire mouvementée et d'histoire parfois sombre de l'Église pour que sa parole arrive jusqu'à nous. Alors, à tous ceux qui sont à Rome et ailleurs, et toutes celles, bien-aimées de Dieu, quelle belle expression, bien-aimées de Dieu. Dieu nous aime bien, ce n'est pas qu'il nous aime bien, c'est qu'il nous aime bien. Amen. Appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous dites même pas amen là, parce que c'est important, parce que sinon ça va gâcher tout le message. Alors je vais le relire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Oh, quelle spontanéité, Angers, c'est extraordinaire. vous avez réagi exactement comme moi, c'est-à-dire que quand on entend ces mots, que la grâce et la paix vous soient données, on a l'impression que c'est la fin de la messe, ceci dit avec beaucoup de respect un peu, ça fait un peu liturgique sur les bords quand même, hein. Que la grâce et la paix vous soient données, amen. Et c'est bien, et pourquoi pas, on peut le dire sur ce ton, si on y tient, c'est pas comme ça qu'on va faire venir les jeunes et rester ceux qui y restent. Mais sérieusement, on vient de dire... Par cette phrase-là, on vient de résumer peut-être l'Évangile, peut-être la Bible, peut-être toute l'histoire de la grâce et de l'humanité. Et cette bénédiction, cette parole-là, si vous regardez bien, et ça c'est intéressant, vous allez la trouver dans toutes les épîtres de Paul et dans presque toutes les autres épîtres. Presque à chaque fois, à un moment ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, allez hop, on y va. Ah ben oui, c'est la liturgie, hein. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est... Liturgie, ce n'est pas un gros mot, en fait. Hein. Ce n'est pas un péché, la liturgie. Mais c'est beaucoup plus qu'une parole liturgique. C'est une parole vitale. Et c'est comme... Nous, on le lit comme ça, comme une salutation. « Bonjour, monsieur un tel. » Mais tout est là. Et tout ce qui va suivre découle de ce qui est là, dans la grâce et la paix. Clique suivant, s'il vous plaît. Ah, où est mon... Il n'y a pas le petit dessin... Oui, pardon. Excusez-moi, c'est moi qui suis désordonné. Voilà, grâce et paix. Alors, tout le monde sait comment s'appelle ce petit signe, et pour ceux qui ne nous voient pas, je vais le dire dans un instant, comment s'appelle ce signe ? Non, oui, mais ça, c'est comme ça qu'on le prononce. Si c'était si simple, vous n'auriez pas posé la question. Alors, ça a un nom qui sonne, qui sent la Provence et qui ne l'est pas du tout. Qui sait, il y a bien des grammairiens, des professeurs de français dans la salle, non? Comment? Ah, bravo, il y en a une personne, merci monsieur, une esperluette. C'est pas beau comme nom, on a l'impression que c'est un petit oiseau qui décolle. Une esperluette. Alors, ceux qui ne sont pas francophones d'origine, il n'y a aucun complexe, personne ne savait que c'était une esperluette. Une esperluette. Espère, ça fait belle lurette que j'espère. Non. Esperluette. Et c'est la contraction des deux lettres du mot « et ». C'est une histoire de Romains d'ailleurs, semble-t-il, qui étaient déjà des gens pressés, bien avant les Américains et les Français, il y a voir sur la route. Et ils ont pris les deux lettres, ils les ont contractées en un beau symbole, ce qu'on appelle une esperluette. Vous avez noté, j'espère. Et je trouve ça magnifique, parce que ça veut dire que ces deux lettres sont tellement inséparables, et en français, que on les a mis ensemble et pour qu'elles ne puissent jamais se séparer. Grâce et paix. De la part du Père. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire ce matin, mais je n'ai pas fini. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Si vous pensez qu'il vous faut plus, c'est que vous sous-estimez, comme moi souvent, ce que c'est que la grâce et la paix de Dieu. Elles sont inséparables en Jésus-Christ. Regardez à la croix et vous verrez la grâce. Et par l'œuvre de Jésus à la croix, la Bible nous dit clairement et sous toutes sortes de formes combien la paix, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous en paix ce matin? Soyez pas trop pressé de répondre, parce que moi je suis plutôt du genre tourmenté, alors je ne suis pas toujours en paix, même le dimanche matin. Mais... Si je cherche la paix, si je me débats pour être en paix, je serai encore plus tourmenté, agité, excité, énervé. Mais si je puise dans la grâce, si je me souviens que la paix véritable ne peut que découler de la grâce qui est en Jésus-Christ, alors là, il y a de l'espoir pour moi. Il y a de l'esperluette. Il y a de l'espoir parce que c'est de la grâce. Hein, j'entends ce chant magnifique. Je ne suis pas un gars à toujours chanter des vieux chants, mais à part ceux du IVe siècle, mais comme un fleuve immense, hein, et la paix de Dieu. Ça, c'est un beau classique qui mérite d'être gardé dans notre... de temps en temps d'être rafraîchi. Ou... La paix de Dieu est comme un fleuve immense. On habite au bord du Saint-Laurent, qui est un fleuve majestueux, dont le débit est supérieur à celui des 5 fleuves de la France. Excusez-moi, c'est pas pour... Mais quand même, c'est quelque chose, quoi. Bon, du coup, je deviens Québécois, alors que je suis même pas Canadien encore. Mais souvent, quand je vois ce fleuve qui m'émerveille, qui m'impressionne, je pense à l'abondance de la grâce. En Jésus-Christ, il y a toute la grâce de Dieu. Il fallait que ce soit le Fils de Dieu qui donne sa vie, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait être le canal par lequel toute la grâce de Dieu pouvait passer. Ça, c'est une nouvelle doctrine. Ben non, c'est une application. En Jésus-Christ, tout ce que Dieu pouvait, voulait et choisissait de nous donner, il nous l'a donné. Vous vous rendez compte? Mais non, vous ne vous rendez pas compte. À peine. Grâce et paix. Et l'apôtre Paul, quand il dit grâce et paix, c'est plus qu'une salutation. C'en est une. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte grec, je ne suis malheureusement pas un spécialiste, mais les spécialistes me l'ont dit, en fait, ça se dit, on pourrait le traduire de cette façon très simple, plutôt que la grâce et la paix vous soient données, ce qui peut paraître être un souhait, un peu un vœu pieux, ou un souhait de nouvel an, 2018, ah, ben, que je te souhaite d'être en bonne santé, hein. C'est gentil. Ça n'aide pas beaucoup, mais l'intention est bonne, c'est gentil de le dire. C'est pas ça, c'est pas oh, grâce et paix pour 2018, hein. Il y en aura besoin. Eh oui, il y en a besoin. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est pas un vœu pieux, ni un vœu du tout, c'est une affirmation, c'est une déclaration. Ça pourrait être traduit, vous, grâce et paix. Vous qui êtes bien-aimés de Dieu, qui avez accueilli le pardon et le salut en Jésus-Christ, alors vous, grâce et paix. Vous, grâce et paix. Ce matin, Dieu nous le dit par cette parole, aujourd'hui encore, elle retentit. en Jésus-Christ ce matin, par le pain et la coupe qu'on va partager, on s'en souvient, par chacun des chants qu'on a entendus et auxquels on a participé tout à l'heure, on s'en souvient constamment. Et tout ce qu'on fait, on veut que ça nous refocalise, ça nous recentre toujours sur la personne, sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais le Fils est toujours là, j'allais dire au milieu, au centre, hein, dans le sens où c'est par son œuvre que tout cela devient possible. Et peut-être que vous êtes un tourmenté chronique, comme je serais enclin à l'être. J'aimerais vous dire ce matin, au nom de Jésus, grâce, vous, toi. Non, pas ton voisin, toi. Grâce et paix. Toi qui as toutes les allures de quelqu'un de paisible et de tranquille et de serein et de sûr de toi. Et qui boue dans ta marmite tout le long de la semaine, qui est en effervescence en réalité. On est quelques-uns dans ce club-là, hein, qui cachent bien leurs affaires. Mais le jour où il y a un infarctus qui vous pète à la figure, là, alors là, vous ne cachez plus grand-chose. Hein. Là, on n'est plus très bon pour cacher notre stress et notre mauvaise gestion de nous-mêmes, ou notre absence de gestion de nous-mêmes. Grâce et paix. Seigneur, je veux vivre dans ta grâce aujourd'hui. Parce que si vous inversez les rôles, hein, paix et grâce, ça ne veut plus rien dire. Ça, c'est de l'évangile à l'eau de rose. C'est... Aimez-vous les uns les autres. Si ça suffisait, il y a longtemps que ça se verrait. Jésus n'est pas venu pour dire « aimez-vous les uns les autres ». Il est venu pour dire « aime Dieu et ensuite ton prochain comme toi-même ». Mais si les choses ne sont pas réglées avec Dieu, si on n'est pas réconcilié avec lui d'abord, et si on ne puise pas la source qui est bien plus pure que celle du Saint-Laurent, si on ne puise pas à la source qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre paix, elle sera toujours très provisoire. Ce sera juste une absence de guerre dans le meilleur des cas, comme on dit. Mais la paix véritable, mes amis, elle est dans la réconciliation avec Dieu, de laquelle découle la réconciliation avec nous-mêmes. On peut même se regarder dans la glace et dire « Je suis une créature si merveilleuse. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. » Ça, c'est toute une étape. Hein. De le dire sans se péter les bretelles. Excusez-moi, ça c'est du québécois. Se péter les bretelles, c'est pas élégant, mais ça dit bien, ça veut dire faire le malin, quoi. Hein, comment on dirait ça en France, je sais plus. Arrête donc de te péter les bretelles, ça c'est du québécois. C'est pas, oh Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme ce publicain là, hein, ce misérable, je loue de ce que moi, avec mes 40 ans de conversion, ou mes 30 ans, ou mes 10 ans, ou... avec mon témoignage remarquable. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est te loue, parce que c'est toi ma source. C'est toi qui m'as créé. Tu es ma source. Et tout ce que j'ai, je te le dois. Et tout ce que je suis, je te le dois. Le meilleur, le pire, je me le dois. Et par ta grâce, tu me rachètes, tu me pardonnes et tu me transformes. Grâce et paix. Vous, grâce et paix. Amen. Et le monde qui nous entoure a besoin de plein de choses, sans doute. Moi, il y a des fois où je suis dépassé, je vois tout ce qui se passe autour de nous, et je suis, honnêtement, il y a des fois, je trouve ça effrayant. Je dis, mais on voit les événements, la tournure, le développement au niveau de la société, au niveau de la moralité ou de l'immoralité, et de toutes sortes de choses, et le désarroi et la confusion qui règne dans plein de domaines. Je dis, mais Seigneur, je pense à mes enfants, puis je pense à nos deux petites filles. Seigneur, quel cadeau on leur fait là, parce que ce n'est pas eux qui l'ont inventé ce monde. Hein. Puis Internet et toutes les histoires dont les enfants et les ados deviennent esclaves, là. C'est pas eux qui les ont inventés ces trucs-là. Hein. Que je sache, ce sont c'est nous, quoi. C'est notre génération, quand même. On est solidaires. Grâce et paix, Seigneur. Grâce et paix dans mon cœur pour mes enfants et mes petits-enfants, mais aussi grâce et paix pour eux. Au nom de Jésus, qu'ils puissent trouver dans leurs grands-parents, mais aussi dans bien d'autres et dans leurs parents, des hommes et des femmes qui ont goûté la grâce. L'apôtre Paul dira « J'ai été saisi par le Christ ». Il n'a pas dit « J'ai choisi de croire en lui », c'était bien, l'église était pas mal, la louange, les chants, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Non, il dit « J'ai été saisi par le Christ ». Moi qui suis le premier des pécheurs, il ira jusqu'à dire. Attends, tu es un apôtre, tu devrais avoir une image de soi un peu meilleure, mon ami. Là. Un jour, il a écrit « Je suis le moindre des apôtres ». Un autre jour, il a écrit « Je suis le moindre de tous les saints ». Et dans une autre épître, il a écrit « Je suis le premier des pécheurs ». dans cet ordre-là. Si vous regardez où est-ce qu'il l'a dit, les épîtres où il est, je vous laisse chercher vous-même, vous verrez que c'est quelques années, il a dit à un moment donné, je suis, je suis pas sûr de l'avoir sous les yeux, mais je suis, c'est ça, je suis le moins des apôtres, 1 Corinthiens 15-9. Et d'après ce que l'histoire nous dit, ce n'est que quelques années après qu'il a écrit l'épître aux Éphésiens, où il a écrit, je suis le moindre de tous les saints. Et un peu plus tard encore, il écrira à Timothée vers la fin de sa vie, « Je suis le premier des pécheurs. » Vous parlez d'une promotion, vous ? Le moindre des apôtres, je veux bien, mais le moindre de tous les saints. Et le premier des pécheurs ? Est-ce que Paul aurait rétrogradé ? Non, Paul a progressé et il a réalisé toujours plus que tout ce qu'il était, tout ce qu'il vivait, il le devait à la grâce de Dieu. Et que non seulement il était le moindre des apôtres, mais même le moindre de tous les saints, qu'il n'avait rien à prétendre au-dessus ou par-dessus qui que ce soit d'autre, si ce n'est d'être un témoignage vivant de la grâce de Dieu, de laquelle découle la paix de Dieu, alors que Dieu nous aide. J'aimerais vous lancer ce défi, pourquoi pas cette semaine, sauf si vous avez un autre plan bien précis de lecture de la Bible. Fouillez un peu, fouinez, lisez à partir de l'Épître aux Romains, chacune des épîtres... pas en entier, mais juste de chercher, retrouver, repérer l'endroit où il est parlé de que la grâce et la paix vous soient données. Et puis regardez le contexte immédiat. C'est plein de leçons, c'est plein d'enseignements. Exemple, les Corinthiens, il leur dit la même chose. Clic suivant, s'il vous plaît, il était temps que j'y arrive. Rassurez-vous, on ne va pas tous les voir loin de là. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. Dans une autre version, il dit tous les dons. Quel éloge ! Vous n'avez pas envie d'être un chrétien à Corinthe, vous ? Ah, écoutez, moi, finalement, parce que les églises, quand même, je trouve qu'il y a à prendre et à laisser. Hein. Il y a des trucs, il semble que dans toutes les églises, il y a des trucs un peu bizarres ou imparfaits au moins. Puis, moi, j'aimerais bien trouver l'église que je mérite, là. Ben, moi, je ne cherche pas l'église que je mérite, hein, parce que ne demandez pas trop à Dieu ce que vous méritez, d'accord ? Parce que si vous le donnez, s'il me le donnait, je ne suis pas sûr qu'on serait reconnaissant. Mais oh Seigneur, j'en demandais pas tant. Demandons à Dieu ce qu'il nous accorde dans sa grâce, sa faveur imméritée, parce que c'est ça la grâce. Hein. Mais quand on lit ces versets, on croit rêver. Corinthe, l'église idéale, peut-être parfaite. Enfin, des gens parvenus à maturité, ils ont compris, comme disent les Québécois, ils l'ont l'affaire. Ça y est, ils y sont arrivés, eux. Ils l'ont l'affaire. Aïe, 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 c'est que vous n'avez pas lu le chapitre 2, le chapitre 3, et puis les autres. Et puis le temps se gâte, et puis arrive à la fin d'un Corinthien, on se dit, ça y est, ils ont compris. Dans la deuxième, ça va aller mieux. Ah mais non, après, ils sont en conflit avec l'apôtre Paul, il y a des trucs qui ne leur plaisent pas, et puis, ouais, pour qui il se prend. Oh là là. Ah non, finalement, je ne veux pas aller à Corinthe, hein. Je vais rester à Angers. D'ailleurs, vous êtes très bien ici. Et l'Église, c'est des hommes, des femmes sauvés par grâce. Et qui sont en marche. Moi, je redouterais de... J'aurais peur d'entrer dans une église parfaite. D'abord, je me sentirais seul, un peu. Puis je me sentirais mal. Je ne vois pas trop ce que je pourrais y faire. Mais une église en marche, ça, c'est merveilleux. Avec des hommes et des femmes qui ont goûté la grâce de Dieu et qui sont déterminés à progresser dans la grâce. La volonté de Dieu, nous dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, c'est votre sanctification. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec comment je m'habille ou si je mets un peu de maquillage ou pas. Enfin, moi, j'en mets pas, mais... ou des choses semblables. Ça a tout à voir avec l'état de mon âme et de mon cœur et de savoir si, oui ou non, je laisse Jésus me travailler de l'intérieur pour le transformer à son image, pour que le fruit de l'esprit soit vu en moi. Ça, c'est le caractère de Jésus. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est un méchant programme. Il y a de quoi s'occuper. Mais ce n'est pas nous qui pouvons le produire. Ça ne peut être que le fruit de la grâce agissant en nous. Et la grâce est la racine de laquelle tout bon fruit peut croître et mûrir. Amen. Alors ne cherchez pas la paix, saisissez la grâce. Laissez-vous renouveler dans la grâce. Laissez-vous renouveler dans l'amour de Jésus. Et si vous êtes fatigué de lire la Bible et vous ne la bourriez à personne, surtout pas à votre pasteur, que ça fait 20 ans que vous lisez et puis que finalement vous vous en lassez, peut-être même que vous ne la lisez plus, votre Bible. Au lieu de sombrer dans la honte et la culpabilité et de faire le jeu de l'adversaire, relevez donc la tête et dites, « Seigneur, je veux te redécouvrir. Je veux te rencontrer tout à nouveau. » Relisez les évangiles lentement, plus lentement que ça, plusieurs fois. Redécouvrez Jésus, sa personne, son œuvre, son enseignement. Laissez-le vous émerveiller tout à nouveau. Il peut le faire. Ça fait partie d'Éphésiens 3 qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Refuser la fatalité de dire « ma vie chrétienne est plate ». Ça, c'est québécois. C'est plate, ça veut dire c'est nul, c'est mort, c'est plate. Ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Comme un électrocardiogramme, c'est plate. Ma vie chrétienne est plate. Bon, ben, va falloir prendre de l'altitude. Seigneur, je veux renouvelle en moi, transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence. Je veux redécouvrir ta grâce. Je veux arrêter de me comparer aux uns et aux autres. Quelqu'un a dit, quand on se compare, on se console. Moi, je dis, quand on se compare, on se désole aussi. Ça dépend, hein, du point de vue où on se place. Alors, on va arrêter de se comparer. Hein. C'est un peu trop fatigant et pénible. Si on pouvait juste être qui nous sommes par la grâce de Dieu, et apprendre à grandir dans l'amour, dans le respect, dans l'écoute, dans le partage. Et tout ça, ça va jusqu'à l'Apocalypse. Alors, on va lire chacune des... Non, on va directement à l'Apocalypse, au grand soulagement de plusieurs... Ouf. Apocalypse, chapitre 1er, c'est un texte colossal. Ben, les Colossiens aussi, c'est colossal, mais l'Apocalypse, c'est phénoménal. La personne de Christ dans toute sa splendeur, lisez-le dans l'Apocalypse, chapitre 1er, c'est un texte somptueux, glorieux. Au chapitre 1er, verset 4, oui, alors... Tu peux, voilà, bravo, merci, on va rattraper. De la part de Jean, l'apôtre Jean, aux sept églises, Jean avait environ 90 ans. Et s'il y a une chose que cet homme exemplifie, c'est un homme qui a su se ressourcer, être renouvelé dans la grâce, parce que c'est l'apôtre de l'amour jusqu'au bout. 90 ans, il avait vécu bien des choses dramatiques, dont la destruction terrible de Jérusalem, qui a eu lieu, il n'en parle même pas. Il a vécu des persécutions. Il est, semble-t-il, le dernier apôtre qui ait survécu à la mort souvent violente, comme martyr. Il semble qu'il soit le dernier qui ait survécu à tout cela. Selon toute vraisemblance, déjà on ne vivait pas souvent jusqu'à 90 ans. Et tout ce dont il parle, c'est de la grâce et de la splendeur de Christ. Et il dit, de la part de Jean aux sept églises qui sont dans la province de l'Asie, hein, ce n'est pas le continent, que la grâce, ben tiens donc, lui aussi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. On a l'impression qu'il l'amplifie sur Paul, hein, sur ce que Paul a dit avant. La grâce, la splendeur de Jésus, splendeur de la gloire éternelle, splendeur du Père. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur. Et il est digne d'être admiré et acclamé et célébré et suivi, un pas à la fois, même dans l'ombre, même dans la nuit, il est digne. Et en lui, toute la grâce dont vous avez besoin pour faire face à ce que vous vivez en ce moment est suffisante. L'apôtre Paul dira comment le Seigneur lui a dit, alors qu'il était lui-même dans l'épreuve, qui traînait, qui durait, on n'aime pas ça, hein, préfère le miracle, préfère l'instantané, et on n'a pas tort, c'est humain. Quand on a mal, on n'a pas envie d'être soulagé dans 3 mois. C'est maintenant qu'on a envie que ça marche. Et Dieu merci, souvent, on peut vivre des miracles instantanés. Mais la vie dans la grâce, c'est plus que ça. Et ça va plus loin que ça. La vie dans la grâce, c'est ce qui permet de traverser les moments difficiles, qu'on en soit délivré promptement ou pas. C'est celle qui permet de traverser les vallées et quelquefois plus d'épreuves, les années, et le deuil, et la séparation, et les échecs, et de se relever encore une fois. Et de continuer encore la route, et d'aller encore un peu plus loin. Et l'apôtre Jean parle à des gens qui sont face à des persécutions terribles, à des temps très difficiles. Et là encore, il les ramène à l'essentiel. Grâce et paix de la part du Père et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il termine son introduction en disant au verset suivant, « À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres, des sacrificateurs, qui apportent des sacrifices de louange, de reconnaissance et de nos propres vies, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. » Est-ce que vous l'aimez ce matin? Est-ce que si vous l'aimez, vous avez sûrement envie de l'aimer davantage? Si vous aimez, vous avez sûrement envie de mieux le connaître et de mieux le suivre et le servir. J'aimerais prier le Seigneur avec vous. Et je ne sais pas où vous en êtes. Je ne connais pas vos besoins. Mais Dieu les connaît si bien. Et il n'y a rien dont vous ayez besoin à quoi Dieu n'est pas déjà pourvu en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. Alors, ouvrons-lui tout grand nos cœurs. Accueillons sa grâce dans nos vies, tout à nouveau ce matin. Amen. Et si vous êtes venu malade, fatigué ou découragé, désabusé, pourquoi ne pas vous lever à votre place? Non pas pour simplement attendre que les autres prient, mais que ce soit votre manière en vous levant de dire, je confesse ta grâce. Oui, j'ai besoin de taper, mais Seigneur, je vais à la source ce matin. Tout à nouveau, je me laisse ressourcer par toi. Je retourne, je reviens à ta grâce. Amen. Si c'est votre prière ce matin, vous pouvez vous lever avec moi. Père, merci pour ces moments devant toi, ces moments délicieux, ces moments précieux. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi, mais tu as fait de nous tes enfants. Quel privilège! Tu as fait de nous tes serviteurs et tes servantes, tes adorateurs. Et tu fais de nous ce matin des hommes et des femmes qui sont saisis tout à nouveau par ta grâce. Alors merci Seigneur, tout comme tu nous as saisis et sauvés, nous saisissons et tout à nouveau nous prenons ce que tu nous donnes en abondance. Nous recevons ta grâce, ta provision qui est amplement suffisante pour tous nos besoins et même pour déborder sur ceux qui nous entourent. Père, nous recevons et nous confessons qu'en Jésus-Christ nous avons la vie, nous confessons la guérison, confessons la santé et les forces nouvelles, confessons l'encouragement, confessons l'assurance que tout est bien avec toi, l'assurance que nous pouvons faire un pas de plus, que nous pouvons affronter les jours qui sont devant nous, quoi qu'il advienne. Confessons que nous sommes les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et nous te célébrons de tout notre cœur, Père. Et si ce matin vous n'êtes pas disciple de Jésus, vous n'avez pas encore réconcilié votre vie avec Dieu, pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je te demande pardon, viens changer ma vie. J'accueille, puisque tu veux bien de moi, j'accueille ta grâce. Sois le bienvenu en moi, fais le ménage que je n'ai pas su faire, transforme-moi. Fais de moi ton enfant, je reçois ton salut et je t'en loue et t'en remercie. Et si c'est votre prière, ne quittez pas ce lieu plus tard ce matin sans l'avoir dit à quelqu'un. Un ami, le pasteur, un responsable, dites-le, j'ai besoin que tu m'aides parce que je veux aller plus loin. Je veux persévérer dans la grâce pour vivre dans la paix de Dieu. Oh Seigneur, sois béni. Élevons nos voix ensemble pour juste lui dire merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta fidélité et ta bonté envers chacun d'entre nous. Oh, sois célébré, Père, au nom puissant de Jésus.